morning edition from NPR News.
Let me tell you something about housing.
France Inter, le 18-20.
Dans un mois, les Algériens vont voter, ce sera le 12 décembre. Mais qui veut de ces élections dans la rue aujourd'hui? Les Algériens n'ont pas cessé de manifester depuis le 22 février dernier. On prend de leurs nouvelles ce soir. Rien n'a changé de leur détermination apparemment, mais y a-t-il un changement de système en vue? Pour l'instant, rien n'est moins sûr et on y vient tout de suite. Le bruit du monde vous explique ce soir comment les poètes, les chanteurs, les écrivains africains, les musiciens sont mis à contribution pour empêcher l'immigration illégale. Et Amélie Perrier vous emmène chez les Sikhs et dans une radio qui ferme aussi alors qu'elle lutter contre le virus Ebola. 18h50, passons genre dans le monde et Julia Foyce avec des japonaises à lunettes et des footballeuses australiennes. 18h55, le monde à l'envers de Jean-Marc Four ou comment l'opposition en Bolivie n'est pas forcément ce qu'on imagine. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Sintès. Un jour dans le monde.
Bonsoir Sophie Bessis.
Bonsoir.
Vous êtes historienne spécialiste de l'Afrique subsaharienne et du Maghreb. Et bonsoir Tahar Zaïd.
Bonsoir.
Vous êtes membre du collectif Agir pour le changement et la démocratie en Algérie. On a voulu vous réentendre, Tahar Zaïd, parce qu'on s'est vu ici même dans ce studio il y a quelques mois de ça, au début de je ne sais pas si vous appeliez ça à l'époque la révolution algérienne, en tout cas au début du mouvement. Je ne sais pas d'ailleurs s'il faut lui donner un nom de révolution. Est-ce que vous dites ça comme ça?
Irak en arabe.
Irak en arabe.
Exact.
Donc, bon, révolution. Et on a eu envie de savoir où vous en étiez, en fait, puisque vous faisiez partie de ces jeunes qui étaient très impliqués. Je le disais à l'instant, je vous donnerai la parole tout de suite après, Sophie Bessis. Le peuple algérien n'en veut pas de ces élections, c'est en tout cas ce qu'il dit depuis que la date a été fixée. Qu'est-ce qu'on dit? Elle s'impose à votre corps défendant en l'état, on en est là?
Bon, c'est pas encore. Mmh. Les manifestations continuent depuis maintenant 9 mois, donc depuis le 22 février. Les gens sont toujours, enfin les Algériens sont toujours déterminés, pacifiques et ne veulent pas de ces élections. Tous les vendredis depuis plusieurs mois, ils refusent les élections, ils refusent ce système. Encore une fois, le 1er novembre, il y a eu une démonstration assez impressionnante par des manifestations dans toutes les villes algériennes et notamment à Alger, et ce vendredi aussi.
Le seul moyen de dire non, c'est quoi? C'est de pas y aller. Est-ce qu'il il reste un mois seulement, hein, le scrutin va avoir lieu. On parlera des fameux 5 candidats qui sont là pour l'instant en lice et qui ont été adoubés, on va dire. Le moyen de dire non, c'est de ne pas y aller. C'est de perturber le scrutin. C'est quoi le moyen de dire non au fond?
De ne pas y aller, bien sûr, et de continuer la mobilisation. Et il faut que la mobilisation reste et continue à être pacifique. Et en tout cas, les Algériens aujourd'hui n'ont pas d'autre solution.
Vous avez le sentiment...
Boycotter les élections et les refuser par des manifestations.
Je vois que vous piaffez d'intervenir, Sophie Bessis, mais je vous en prie, juste un mot là-dessus, on échangera la parole. Comment se fait-il que personne des mouvements d'opposition qui sont là depuis le 22 février n'a pu émerger du tout? Est-ce que c'est parce que certains sont en prison? Est-ce que c'est parce qu'ils sont empêchés? Qu'est-ce qui fait qu'au fond, ces 5 hommes qui vont se présenter, bah, les Algériens les connaissent déjà?
Bien, écoutez, l'opposition, il y a un mouvement populaire extrêmement important, et vous l'avez dit, puisque des millions de personnes sont sorties dans la rue dans toutes les villes d'Algérie. Je crois que c'est le mouvement le plus important depuis l'indépendance, on peut le dire. D'ailleurs, il n'est pas indifférent que le 1er novembre, les manifestants et les manifestantes aussi, parce qu'il y en a quand même pas mal, il faut pas les oublier, le mot central qui était crié par les manifestants, c'était indépendance.
Ouais.
C'est-à-dire, eh bien, en 1962, ça a été la libération de la colonisation, et maintenant, ce serait une indépendance politique, disons. La libéralisation par rapport à l'armée qui a pris le pouvoir depuis 1962 et qui ne l'a jamais lâché. Et ce mouvement est extrêmement intéressant parce que c'est effectivement un mouvement qui n'a pas voulu se donner de dirigeant, mais il y a un moment où le fait de ne pas se donner de dirigeant ou de représentant, disons, n'employons pas le terme de dirigeant qui est peut-être trop fermé, mais de représentant, fait que ça a donné une latitude à l'état-major plus importante, me semble-t-il, que si ce mouvement avait été davantage structuré depuis quelques mois. Et moi, je mets parfois en regard l'Algérie et le Soudan.
J'allais vous en parler, j'ai l'impression que c'est un peu le pays exemple.
Ce sont des mouvements qui ont démarré pratiquement au même moment. Et les Soudanais se sont donné une représentation extrêmement rapidement. Une représentation qui a été acceptée par l'ensemble du mouvement contestataire contre un régime qui était d'une brutalité depuis 30 ans inouïe. Et les Soudanais n'ont pas obtenu tout ce qu'ils voulaient, mais ont obtenu une partie de ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire une période de transition. Absolument. De 2 ans, un gouvernement intérimaire, etc. Et pour l'instant, bien sûr, abat le régime, parce que je préfère le terme de régime à celui de système. Mmh, le terme de système ne veut pas dire grand-chose en définitive. Abat le régime, c'est très bien, c'est une revendication parfaitement légitime et importante, mais comment?
Et on va poser la question à Tahir Zahid. Est-ce que vous avez le sentiment, effectivement, que ça a été une erreur? Je comptais en parler après, mais Sophie Bessis, mais le Soudan, on a l'impression dans la conversation que le Soudan, c'est le pays miroir et le pays exemple, en effet, qui peut-être là, pour le coup, avance plus vite. Est-ce que vous vous dites, à un moment, il fallait sortir vraiment des gens de nos rangs pour pouvoir les emmener jusqu'à une élection ou une transition?
Je suis d'accord, mais en même temps, je voudrais compléter. Au Soudan, ça s'est pas fait rapidement. C'est-à-dire, il y a eu plusieurs mois de manifestations aussi. Ça a commencé en décembre et ils ont commencé à avoir des acquis en juin ou juillet. Donc, ça s'est pas fait rapidement. Et c'est différent de l'Algérie aussi.
Vos manifestations sont déjà plus longues. Vous avez commencé en février, c'est pas une compétition.
C'est bien sûr. C'est pas une compétition. C'est juste pour dire que les Soudanais aussi ont manifesté longtemps avant d'avoir des acquis, et il y a eu des arrestations, il y a eu des morts au Soudan. C'est pas le cas de l'Algérie. Je pense que c'est pas tout à fait comparable.
Bien sûr, les choses ne sont jamais comparables. Exactement.
C'est différent. La différence en Algérie, c'est que le pouvoir n'a donné aucun signe aux manifestants et aux quelques opposants qui auraient pu prendre les rênes du pays. D'une réelle envie de faire quelque chose et d'assurer une transition démocratique. Il y a eu des arrestations, beaucoup d'arrestations d'opposants. Il y a des chefs de parti qui étaient avec les manifestants, qui étaient un peu les représentants de ce Hirak, qui ont été arrêtés, qui sont aujourd'hui en prison. Donc, c'est impossible aujourd'hui pour nous de dire qu'on peut négocier avec ce pouvoir.
Est-ce que le pouvoir se raidit d'ailleurs à l'approche du scrutin? Il y a eu effectivement des arrestations, comme le dit Tahar Zahid. Est-ce que vous avez l'impression que le pouvoir se raidit, Sophie Bessis, ou pas?
Très raide depuis le début.
Oui, on est d'accord. Encore plus.
Pour l'instant, non. C'est-à-dire que effectivement, il y a une répression, mais si je puis m'exprimer ainsi, avec toutes les précautions qu'il faut avoir par rapport à ce qu'a pu faire ce régime au cours de son histoire, c'est une répression qui reste relativement modérée, même si je le mets avec 1000 guillemets.
Absolument.
Bien sûr,
on a entendu
parce que toute répression est tout à fait insupportable. Mais le pouvoir actuel n'a pas donné la pleine mesure de sa capacité répressive, et heureusement d'ailleurs, parce que si on se souvient de ce qui s'est passé en 1988 par exemple, qui a été une manifestation qui a été noyée dans le sang, ce n'est pas le cas, et tant mieux. Mais le pouvoir actuel, c'est-à-dire en gros l'état-major, tient à ces élections. Elles auront probablement lieu. Et toute la question est de savoir, une des questions est de savoir, d'abord comment il va tenir jusqu'aux élections pendant un mois, de la même façon qu'il a tenu jusqu'à maintenant, peut-être en accentuant un petit peu la répression, et qu'est-ce qui va se passer le 13 décembre? Et c'est ça qui est également important. Il y a 5 candidats. Lequel va être élu ou choisi? On verra, malheureusement, on ne sait pas encore. Il y aura un taux d'abstention stratosphérique, certainement. Il y aura un taux d'abstention stratosphérique, un candidat. Et à ce moment-là, le scénario peut être le suivant. Soit le candidat est totalement, l'élu, entre guillemets, est totalement l'otage de l'armée et donc ne prendra aucune initiative spectaculaire. Soit il va essayer de se libérer de l'armée et proposera des choses. Et à ce moment-là, on va voir ce qui peut être fait.
Est-ce que vous voyez quelqu'un, Tahar Zahid, qui peut remplir ce rôle-là, qui peut prendre une forme de, j'allais dire d'indépendance, c'est pas le terme, mais en tout cas... Exactement, merci Sophie. D'autonomie au moment du 13 décembre. Et je vais vous mettre en colère, je vais le faire sciemment. Pourquoi un Ali Benflis, par exemple, qui dit, non mais attendez, moi, je suivrai, si je suis élu, ce que disent les manifestants, etc. Pourquoi c'est pas possible d'envisager cet homme-là?
En tout cas, enfin, pour répondre à votre question, non. Parmi les cinq, je ne vois personne pour être président le 13 décembre. Et pourquoi pas, pourquoi non aussi à Ali Benflis? Parce que, il faut se rappeler, Ali Benflis était chef du gouvernement de Bouteflika.
Il a été deux fois dans mes souvenirs.
Et il s'est présenté en 2003. Il s'est présenté en 2004 à la présidentielle contre Bouteflika. Et c'est aussi à cause de Benflis que les Algériens n'avaient plus le droit de manifester à Alger depuis 2001. Donc, ce n'est pas une personnalité sur laquelle on peut compter pour la transition à venir.
Et du coup, j'ai envie de vous reposer la question que Sophie Bessis a laissée un peu en suspens. Qu'est-ce qui se passe le 13? Qu'est-ce qui se passe le 13 décembre? Qu'est-ce qui se passe dans la rue le 13 décembre?
On va continuer à manifester, on va continuer la mobilisation en Algérie, ailleurs et à l'étranger, jusqu'à ce que le pouvoir accepte une transition sans les têtes du système. On n'a pas d'autre choix, en tout cas.
Mais ne pensez-vous pas que l'opposition doit... présenter un calendrier. Un calendrier, voilà, on veut ça, on veut telle étape, telle étape, telle étape. Un calendrier, alors, est-ce qu'il faut des élections ou pas pour l'instant? Est-ce qu'il faut une transition dans ce cas-là d'un an, deux ans, etc.? Est-ce qu'il faut une conférence nationale? Cela pourrait également être envisageable. Et donc, est-ce qu'il n'y aurait pas, de la part de l'opposition, est-ce qu'elle n'aurait pas intérêt à présenter des revendications plus précises et un calendrier plus précis? Alors, toute la question est de savoir si un Benflis ou un autre, mais un Benflis qui est, disons, le moins inconnu des candidats à part Tebboune.
Enfin, il est très connu par les Algériens pour ce qu'il a fait.
Il est très connu par les Algériens, justement. Bon, le problème est de savoir, est-ce que un Benflis éventuellement s'emparerait de ces revendications si elles étaient précises? Et la deuxième question, qui n'en est pas moins importante, au cas où il s'en emparerait, au cas où il serait élu ou choisi, au cas où il s'en emparerait, quelle serait la réaction de l'état-major? Voilà.
Juste pour revenir à Benflis, se présente aux élections et il ne dit rien sur les arrestations arbitraires, il ne dit rien sur les plus de 150 détenus dans les prisons algériennes. Donc il ne peut pas représenter le Hirak aujourd'hui, il ne peut pas assurer une transition libre et indépendante du régime actuel. Donc on ne lui fait pas confiance. En tout cas, les Algériens ne lui font pas confiance.
Mais il l'a senti lui-même d'ailleurs, parce qu'il est l'un des seuls à avoir tenté une sortie. Il s'est fait siffler et parti en courant d'un restaurant.
Exactement.
Ça dit des choses quand même. On est là, simplement dans Alger. Pardon, vous vouliez ajouter quelque chose?
Oui, pour les mécanismes et
le calendrier.
Le calendrier sera présenté quand le pouvoir et le régime et le haut commandement militaire de Gaïd Salah sera prêt à accepter de dialoguer avec l'opposition. Mais pour le moment, on ne peut pas présenter d'agenda.
Ça veut dire que vous ne savez pas à qui le donner, votre agenda, au fond. Vous avez un calendrier, mais vous ne savez pas à qui le donner aujourd'hui. C'est quoi le rapport d'ailleurs des gens aujourd'hui avec Gaïd Salah, l'état-major de l'armée? On a entendu qu'il a été conspué dans les dernières manifestations.
Si je puis me permettre, mais effectivement, Gaïd Salah aujourd'hui est l'homme le plus impopulaire d'Algérie, incontestablement, dans la mesure où on sait très bien qu'il fait office de chef d'État et que le chef d'État nominal est une potiche. Donc effectivement, c'est l'homme le plus haï d'Algérie, mais c'est un homme qui a aujourd'hui du pouvoir, beaucoup de pouvoir.
Le sens de ma question derrière, c'est est-ce qu'il pourrait y avoir, on parlait de répression tout à l'heure, est-ce qu'il pourrait y avoir une poussée? Est-ce que la crainte,
c'est celle-là?
C'est une poussée de l'armée à ce moment-là.
Et donc la seule chose aujourd'hui dont l'état-major, c'est-à-dire monsieur Gaïd Salah et son état-major ont peur, et la question à laquelle personne n'a réellement répondu, tout en donnant quelques indications, c'est est-ce que l'armée est homogène? C'est-à-dire que, pour l'instant, ce qu'on appelle la rue, et je n'emploie pas du tout ce terme dans un sens péjoratif, absolument pas, hein, bien au contraire, à montrer sa capacité à être pacifique, etc. Mais si l'état-major choisissait une répression violente, il n'est pas sûr que le gros de l'armée suivrait cet état-major. Et je pense que la relative modération de cet état-major est due à cette incertitude.
Je pense que l'incertitude est due aussi et surtout aux manifestants qui sont restés pacifiques depuis le début. Et donc le risque serait trop élevé pour le régime de tirer ou de réprimer encore plus les manifestants. Et peut-être qu'il y aurait des condamnations internationales.
Bien sûr, mais enfin, vous savez que ce genre de régime, les condamnations internationales sont en général assez mesurées, c'est le moins qu'on puisse.
Mais est-ce que
c'est un régime affaibli aujourd'hui? Il reste que le commandement militaire. Ils sont Il reste plus que le haut commandement militaire et le Gaïtza, là, qui veulent plus lâcher.
Mais je pense que l'inconnu de l'armée me semble importante également, dans la mesure où l'armée n'est pas composée que de l'état-major, elle est composée de militaires qui, au fond, ressemblent à cette jeunesse qui manifeste dans les rues. Et ça, c'est extrêmement important.
Et peut-être qu'au fond, c'est ça qui peut sauver le mouvement. Est-ce que ce sera la phrase de conclusion, Tahar Zahid ? Est-ce que la rue, pour le coup, j'allais dire, est tenue ? Il n'y a rien de péjoratif là non plus là-dedans. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun risque pour que le débordement vienne de la rue, en fait. Est-ce que, selon vous, là-dessus, vous êtes tous recta et il ne peut pas y avoir de problème de ce genre-là ? S'il y a débordement, ça viendra forcément de l'extérieur de l'armée ou d'autres.
On ne peut pas le prédire parce que, enfin, eh bien, mais bien sûr, les Algériens veulent garder le côté pacifique des manifestations, mais on n'est pas à l'abri, bien évidemment, de violence si les élections passent après le 12 décembre. En tout cas, c'est pas ce qui est prévu. Aujourd'hui.
On attend le 12, on attend surtout le 13, en fait, comme vous l'avez dit, Sophie Bessis. Merci beaucoup, Tahar Zahid aussi. Merci pour votre dialogue aussi à tous les deux. On va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Merci mille fois.
Le 18-20, Fabienne Synthèse, sur France Inter.
À suivre dans Un jour dans le monde, l'Afrique qui met à contribution ses artistes pour éviter l'immigration illégale. Le bruit du monde, la suite, c'est vous, Amélie Perrier, avec les Sikhs courtisés pour leur anniversaire.
Effectivement, 550 ans de gourou Nanak, c'est lui qui a fondé le sikhisme.
Eh bien, très bien, tout à l'heure, Julia Foy, c'est pas son genre de jouer au foot avec les Australiens. Et pourtant, Julia.
Oui, ben, en Australie, ça bouge, en Allemagne aussi, en Italie aussi, puis en France, bon, on verra.
Allez, tout à l'heure on verra ça. Le monde à l'envers, bonsoir Jean-Marc Follin.
Voilà, qu'est-ce que
t'as ? Attention à l'opposition bolivienne, dites-vous Jean-Marc.
Oui, le président bolivien s'en est allé, c'est maintenant que ça se complique.
Allez, le tour de la planète n'est pas fini. Dans Un jour dans le monde, il passe par les États-Unis, il passe par Akron, Ohio, figurez-vous. The Black Keys, Sit Around and Miss You. Le bruit du monde ce soir est en Afrique, Afrique au sens large, et vous allez comprendre. L'Organisation internationale pour les migrations et l'Union européenne tentent par tous les moyens de limiter l'immigration irrégulière en direction du vieux continent. Il n'est pas seulement question de garde-frontières, de matériel biométrique, etc. On invite les gouvernements d'Afrique de l'Ouest à durcir leur législation sur les questions migratoires et on coopte les artistes africains, les écrivains, les chanteurs, les humoristes pour sensibiliser les migrants au danger de la migration irrégulière, promouvoir aussi un discours patriotique qui doit les inciter à rester dans leur pays pour contribuer à son développement. Voici comment ça se passe. Reportage entre la Guinée et Paris, signé Raphaël Kraft.
Je vais te donner 16 raisons pour partir en Europe. Vous allez me donner 16 fois la réponse « n'y va pas ».
La salle est comble au centre culturel franco-guinéen de Conakry. Pedro Sow humoriste guinéen interprète son one-man show qui porte sur le voyage clandestin de ses jeunes compatriotes vers l'Europe.
Je veux aller en Europe ! Là, c'est les gens. Là, tout le monde a parlé, tu vois. Ok, on y va. Loyer cher, je vais chez les Blancs. Là-bas, au moins, on nous met dans les camps.
Son spectacle est sponsorisé par l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, qui s'est lancée depuis plusieurs années dans une véritable campagne de communication d'influence, pour ne pas dire de propagande, en Guinée et dans toute l'Afrique de l'Ouest.
Plus de 100 morts ! Plus jamais ça !
Objectif ? Inciter les migrants potentiels à rester chez eux et ne pas tenter une aventure incertaine et dangereuse. Humoriste donc, mais aussi journaliste, écrivain, conteur traditionnel et surtout chanteur. Le titre Falé du groupe guinéen Degji Force 3 qui raconte les dangers de l'immigration irrégulière a été financé à hauteur de 15 000 dollars par l'Union européenne. L'OIM a apporté son expertise en se chargeant notamment d'écrire une partie des paroles de la chanson, comme l'explique Fatou Diallo Ndiaye, sa directrice en Guinée.
Il y a même dans le morceau Falé des mots que vous trouverez qui viennent de moi, qui viennent de Luca ou bien de Mohamed.
Luca, votre chargé de communication.
C'est-à-dire que ça a été un genre de brainstorming. Et on s'est dit que, de un, ils sont connus, ils sont écoutés. De deux, si on fait ce clip sur le terrain, ça montre réellement le danger. Le morceau Falé qui est dans l'album Dynasty qui leur appartient, mais le morceau Falé appartient à l'Union européenne et à l'OIM.
La traversée fut rude, le désert est aride. Des dunes de sable, la perte de biche, perdu Malik. J'ai cru avoir un bond, il le passe en Madi.
Initiée en Europe de l'Est dans les années 90, cette communication d'influence à destination des migrants aurait commencé en Afrique en 2007, au Sénégal précisément, avec Youssou N'Dour, l'archétype du chanteur mondialisé. Dans un spot télévisé financé alors par le gouvernement espagnol, la star invitait ses compatriotes à ne pas tenter la traversée en pirogue jusqu'aux Canaries.
Je suis Youssou N'Dour, s'il vous plaît, ne risquez pas votre vie en vain, vous êtes le futur de l'Afrique.
S'il est légitime d'informer les candidats à l'émigration clandestine des dangers du voyage, les spécialistes de la question, comme le sociologue Antoine Pécou, sont très critiques vis-à-vis de ce procédé.
D'un côté, on leur dit « migrer est dangereux », mais il est évident que ce danger est totalement corrélé au contrôle de l'immigration. Plus on contrôle l'immigration, plus il est difficile pour les migrants de circuler légalement, plus ils vont tenter de migrer par des chemins de travers, par des chemins détournés, plus ils risquent de prendre des risques. Donc ça, c'est un phénomène extrêmement bien documenté. C'est évident que la raison pour laquelle les gens montent sur des bateaux, c'est qu'ils ne peuvent pas prendre l'avion comme tout le monde, si on ose dire. Le péril de ce voyage n'a strictement rien de naturel, c'est la conséquence directe de l'empêchement qu'on met en œuvre pour que ces migrants ne puissent pas circuler légalement.
Kumba Gaolo au Sénégal, le Magic System en Côte d'Ivoire, Kofi Kinata, le dieu ghanéen du Fante Rap, les artistes africains sont de plus en plus nombreux à voir dans la question migratoire un sujet porteur et rémunérateur, pourvu qu'il colle aux éléments de langage européen. Même la malienne Rokia Traoré s'est laissée tenter. Son titre « Be Aware Brother, Be Aware Sister » a été sponsorisé par le ministère italien de l'Intérieur. À force de répéter ce discours, des artistes commencent à l'intégrer dans leurs chansons, sans même avoir été sollicités par l'Union européenne ou l'OIM pour le faire, comme un effet de mode. C'est le cas de Tikenja Fakoli, dont le dernier album, Le Monde est chaud, comprend plusieurs titres qui invitent la jeunesse à rester en Afrique pour œuvrer à son développement. Le temps de son célèbre Ouvrez les frontières, sorti en 2007, semble révolu. Tikenja Fakoli.
Je me dis, si nous, on veut que nos enfants vivent dans une autre Afrique, alors notre place, c'est pas ailleurs. Donc, moi, je conseille aujourd'hui aux jeunes de rester, même si y a le problème d'emploi. Je sais qu'il y a beaucoup de difficultés. Je sais que des femmes meurent parce qu'elles sont en train d'accoucher, je sais qu'il y a plein de difficultés. Mais tout ça, je pense que si on décide de se battre pour l'intérêt commun, on a la possibilité de faire bouger les choses.
Rester au pays pour le développer, c'est l'autre discours prôné par l'Union européenne. Il se traduit par une recrudescence de titres à connotation patriotique. En Guinée, le groupe Degji Force 3 a composé une chanson, Guinée Love, à la gloire de leur pays, dont les indices de développement économique et humain baissent dramatiquement depuis plusieurs années. Les quelques études réalisées sur ces campagnes, dont celle de l'Université de Copenhague, émettent de sérieuses réserves sur leur efficacité. En cause notamment la crédibilité des promoteurs occidentaux de ces messages.
Allez, on a fait quelques détours. Tiens, justement, par la Guinée, qu'on entend là, Raphaël Kraft pour le reportage. Merci beaucoup. Le bruit du monde passe aussi sous les radars et c'est Amélie Perrier qui le rattrape. Alors, autre ambiance, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Le bruit du monde ce soir, c'est ce discours de Narendra Modi, mis en musique, que le Premier ministre indien donc a posté ce matin sur Twitter.
Avec cette légende, aujourd'hui, à l'occasion très spéciale du 550e anniversaire de Guru Nanak, j'adresse mes salutations à tous. C'est un jour où nous devons nous consacrer de nouveau à réaliser le rêve de Guru Nanak d'une société juste, inclusive et harmonieuse. Message de sympathie envers les Sikhs, également des députés Rahul Gandhi et Priyanka Gandhi Vadra. Aujourd'hui, 30 millions de fidèles Sikhs célèbrent à travers le monde les 550 ans de la fondation de leur religion, religion monothéiste. Vous reconnaissez les fidèles à leur turban coloré. Le sikhisme est né au 15e siècle, au Punjab, région partagée aujourd'hui entre l'Inde et le Pakistan. Si cette année, l'événement revêt une importance particulière et très politique, c'est parce que l'Inde et le Pakistan, les deux meilleurs ennemis, se sont mis d'accord pour ouvrir le corridor de Kartarpur.
Astha ki bhavnaon ka jwar man mein uthta hua.
Alors voilà l'inauguration samedi de ce corridor de Kartarpur, un couloir conçu pour les pèlerins sikhs indiens pour leur permettre de se rendre sans visa au Pakistan, au mausolée de Guru Nanak, le fondateur du sikhisme. Cela fait quelques décennies que les Indiens le réclamaient, il a enfin été ouvert. Aujourd'hui donc, des sikhs par milliers ont pu prier, chanter, manger ensemble au mausolée de Guru Nanak, sans restriction de visa. Un rapprochement entre l'Inde et le Pakistan que le gourou aurait certainement appelé de ses voeux.
Une radio cesse d'émettre. Nous sommes en République démocratique du Congo.
Une chaîne de radio qui a peur pour ses journalistes et ses animateurs, car l'un des siens vient de mourir. C'est le porte-parole du secrétaire général de l'ONU en personne qui a condamné les violences dans la région. Écoutez Farhan Haq des Nations Unies. Alors, les violences ont provoqué la mort d'un agent de santé travaillant pour la lutte contre Ebola et son épouse a été gravement blessée. La victime était aussi un reporter de la radio communautaire Luemba engagé dans la sensibilisation de la population sur l'épidémie du virus Ebola. Outre la mort de Papi Mahamba, tué dans sa maison, le directeur de la radio dit avoir été la victime de deux tentatives d'enlèvement. Et si l'annonce vient directement de l'ONU, c'est parce que le drame dépasse bien largement les questions sanitaires. Radio Luemba, avant de couper ses micros, émettait dans le territoire de Mambasa, en Ituri, dans le nord-est de la RDC. En fait, cette épidémie d'Ebola, une fièvre hémorragique très contagieuse et mortelle, touche des zones reculées et en plein conflit, l'Ituri, mais aussi le nord Kivu et le sud Kivu. Là-bas, les milices armées sont soupçonnées d'entretenir les peurs et les superstitions autour d'Ebola pour manipuler les habitants et ainsi empêcher le retour de l'État ou l'intrusion de forces internationales. Voilà pourquoi les radios communautaires, essentielles dans l'information aux populations et soutenues par l'ONU, sont prises pour cible. Depuis l'été 2018, le virus a tué, selon les chiffres officiels, près de 2200 personnes en République démocratique du Congo.
Allez, tout à fait autre chose. Même les plus grandes stars, Amélie, peuvent se prendre des fours.
Alors, je ne parle pas de vous, évidemment, bah Fabienne. Mais si, ici, c'est une leçon d'humilité pour tous. Cela s'est passé lors d'un festival de rap à Los Angeles, aux États-Unis.
Heureusement, je fais rarement du rap.
Mais vous pourriez avec votre voix. C'est le festival, en fait, de Tyler, the Creator. C'est d'ailleurs ce rappeur qui fait la programmation. Et cette année, il voulait garder la surprise pour l'une des soirées. Une affiche mystère. Et c'est Drake qui est arrivé sur scène. Drake, c'est du lourd dans l'industrie du hip-hop, dans le top 5 des plus grosses fortune du rap. Le Canadien a des fans partout sur la planète, mais quand il apparaît devant le public le week-end dernier, voilà ce qui se passe. Le chanteur est hué. Il demande au public s'il veut qu'il continue. Beaucoup crient non et le hu. Ce n'est que de l'amour, conclut-il. Voilà, je m'appelle Drake, merci de m'avoir reçu. Il est beau joueur, ouais. Il quitte la scène avant la fin prévue de son concert. En fait, avec cette programmation mystère, les rumeurs prédisaient un concert d'une autre star très rare, franco-océane. Rumeurs fausses, mais voilà, une nouvelle fois la force des réseaux sociaux. Ses fans l'attendaient de pied ferme, ils ont été bien déçus et l'ont fait payer à ce pauvre Drake.
C'est pas sa faute.
Bah oui, ils aiment pas les surprises.
Encore la faute des réseaux sociaux, décidément. Amélie Perrier, merci beaucoup, on se retrouve demain. La suite, tiens, voilà une autre surprise. Une autre surprise,
le surprise. Une surprise,
la surprise hôtel de Fool's God sur France Inter, allez-y. Surprise du jour dans Un jour dans le monde, Surprise Hotel, Fool's Gold sur France Inter. Mesdames, mesdames et autres gens, vous l'avez entendu car elle est tombée de sa chaise. Julia Foy, c'est dans la place.
France Inter. Un jour dans le monde.
Elle ne sait pas se tenir, mais chaque semaine, Julia Foyce nous donne des nouvelles des femmes dans le monde et de la planète LGBT. On commence, Julia, avec l'objet de la semaine.
Bah en fait, il y en a deux. Vous êtes plutôt lunettes ou tampons, Fabienne ?
Alors, je porte des lentilles, on va dire lunettes quand même. Allez-y.
Ok, on commence par là. Lunettes interdites au Japon pour les femmes sur leur lieu de travail. Alors évidemment, rien dans la loi ne les proscrit, ne sont pas si fous. Mais en pratique, elles sont vivement déconseillées, soit parce que ça donne l'air froid, soit parce que ça ne met pas en valeur le visage. Ça, c'est pour les arguments avancés par les entreprises. Argument jugé d'autant moins convaincant que les hommes, eux, ont bien sûr le droit de porter des lunettes sans que personne ne les trouve inamicales ou inesthétiques, d'où ce hashtag qui circule en ce moment sur les réseaux sociaux japonais contre des codes vestimentaires jugés sexistes, et c'est la deuxième fois en 6 mois. Vous vous souvenez, Fabienne, l'an dernier, ce mouvement de colère des japonaises contre l'obligation de porter des talons hauts sur leur lieu de travail. De là à se dire que le vent de révolte déclenché par MeToo est en réalité si puissant qu'il se soit mis à souffler aussi sur un pays pas radicalement féministe de prime abord, de là à penser qu'éventuellement il serait temps de commencer à concevoir qu'on puisse un jour peut-être nous lâcher un tantinet la grappe sur comment on s'habille ou pas, sur ce qu'on porte ou pas, sur son qu'on choisit de voiler ou pas. Je sais pas vous, Fabienne, mais il y a comme un pas que j'ai très envie de franchir. Allez.
Allez, bah, pas tout de suite. Allez, calmez-vous. Julia, les tampons, s'il vous plaît.
Oui, les tampons, considérés comme des produits de luxe en Allemagne, au même titre que le caviar ou la truffe, taxés, donc, comme eux, à hauteur de 19%. Mais ça, c'était avant. Les féministes allemandes viennent d'enregistrer cette jolie victoire. Les protections périodiques seront classées outre-Rhin à compter du 31 décembre dans la catégorie produits de première nécessité et donc taxés seulement à hauteur de 7%. Ça paraît tomber sous le sens, sauf que l'élimination de ce qu'on appelle la taxe tampon est un combat planétaire loin d'être gagné partout. Or, il est urgent. Quand on sait que les femmes dépensent environ 3000 euros sur toute une vie pour acheter en moyenne 11 000 tampons ou serviettes hygiéniques, c'est pas comme si c'était un caprice d'avoir ces règles. Donc avoir accès à un minimum d'hygiène, ça s'appelle un droit. Sauf que ça représente aussi plusieurs milliards de recettes fiscales, d'où la difficulté à faire plier les politiques. En France, ça fait seulement 4 ans que les protections périodiques ne sont plus taxées qu'à 5,5%, comme n'importe quel autre produit de consommation. Bien. Mais peut mieux faire, disent les militantes, pointant du doigt des pays comme l'Australie, le Kenya, la Tanzanie ou le Canada. Là-bas, sur ces produits-là, on ne paye plus de TVA. Point.
Ça bouge dans le monde du football, Julien.
Oui, alors pour se rendre compte, on va prendre la France comme point de repère dans l'espace et la Coupe du Monde féminine comme point de repère dans le temps. Ça donne le 18 juin dernier, le JT de 13h sur TF1.
Avec des gestes si délicats, au bout de doigts si fins, on peut comprendre que certains rêveraient d'être à la place de la balle. Mais l'essentiel est ailleurs, dans ce jeu léger de jambes, pour faire, comme les garçons, du tricot sur la pelouse. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers.
Si je faisais du foot comme je fais du tricot, je vais vous dire.
Alors, depuis, les joueuses dans le monde entier ont explosé leur cote de popularité, les chaînes, leur record d'audience. Résultat des courses en Australie, c'est unique au monde. Les joueuses de l'équipe nationale seront désormais payées autant que les hommes et mieux voyageront comme eux en classe affaires. Faut croire qu'avant, on les faisait voyager dans la soute à bagages, je sais pas. En Allemagne, les joueurs boycotteront dorénavant tous les pays où les femmes n'ont pas les mêmes droits que les hommes. Promesse faite cette semaine par le président de la Fédération allemande de foot. Nous, on se demande quand même, du coup, où est-ce qu'ils vont bien pouvoir aller jouer. Mais bref. En Italie, la défenseuse Elena Linari vient de faire son coming out et c'est une belle première pour une joueuse internationale. Donc oui, on n'a pas fini de mesurer l'impact de la Coupe du Monde, Fabienne, sur une certaine évolution des mentalités dans le football. Quant à notre maître étalon, quant à la France, on en a encore à se demander si beugler, enculé dans les stades, ce serait pas un tout petit peu homophobe.
Allez, corner, Julia Foyce, et à mardi prochain.
Fabienne Synthèse, le 18-20.
Le monde à l'envers. Et Jean-Marc, au cœur de l'Amérique latine, la Bolivie s'enfonce dans la crise après la fuite du président Evo Morales. Le pays a plongé dans l'inconnu. Pas de gouvernement, en proie à de très fortes tensions sociales. Le départ de Morales qui avait concentré tous les pouvoirs peut donner l'impression que cela résout la crise. Mais vous dites attention, en face, l'opposition, c'est pas une bande d'enfants de cœur. Et c'est votre monde à l'envers.
Alors quand un homme veut confisquer le pouvoir et finit par l'abandonner, on se dit... Bonne nouvelle, le jet de l'éponge d'Evo Morales dans ce pays de 11 millions d'habitants coincés au cœur des Andes, c'est d'abord l'échec d'un homme qui avait fini par en faire trop. 14 ans à la tête de l'État et au fil des ans, une personnalisation croissante du pouvoir. Il y a 3 ans, les Boliviens, par référendum, avaient quand même refusé à Morales l'autorisation de se présenter une nouvelle fois à la présidentielle. Il s'en était moqué en obtenant une dérogation de la Cour suprême où il avait placé ses hommes. Puis le scrutin est venu, il y a 3 semaines, entaché de tripatouillages en tout genre, bourrage d'urnes, manipulation informatique, et puis arrêt soudain du décompte des voix avant la fin. C'est pas moi qui le dis, c'est le rapport des observateurs de l'OEA, l'Organisation des États américains. Morales n'a pas supporté l'idée de devoir affronter un second tour, il s'est donc fait proclamer vainqueur dès le premier. La colère s'est emparée logiquement du pays, et contrairement à ce que disent certains leaders politiques, Morales n'a pas été victime d'un coup d'État, il n'a pas été emprisonné, les militaires n'ont pas pris le pouvoir. Non, Morales a tout simplement préféré démissionner et fuir la nuit dernière pour le Mexique, et c'est sans doute ce qu'il avait de mieux à faire. Mais ça ne donne pas pour autant de la légitimité à l'opposition.
Vous voulez dire que cette opposition, c'est pas un modèle de pluralisme démocratique non plus?
Pas vraiment. D'abord, elle est en partie l'héritière de la dictature des années 70, celle d'Hugo Banzer qui avait recruté quand même comme conseiller l'ancien nazi Klaus Barbie pour mieux réprimer les opposants. L'un des deux leaders de la contestation anti-Morales, Luis Fernando Camacho, est un tribun de droite radical, opposition proche du président brésilien Jair Bolsonaro. Il dit vouloir ramener Dieu au palais. Il vient de la capitale économique du pays, Santa Cruz, dans la plaine amazonienne à l'est, une ville où le capitalisme est roi. Parce que cette opposition, c'est aussi l'héritière des gouvernements néolibéraux du début des années années 2000 en Bolivie. Ajustement fiscal, privatisation de l'énergie, licenciement massif dans les mines. Et le rival direct de Morales à la présidentielle, Carlos Mesa, est plutôt de centre droit, mais en 2003, il était quand même le vice-président de Sanchez de Losada, surnommé El Gringo, qui avait fait violemment réprimer les manifestations contre les hausses de prix, plus de 60 morts. Et puis à l'arrière-plan, il y a les convoitises d'une élite et de plusieurs entreprises étrangères sur le fer, l'étain, le gaz et surtout le lithium. Vous savez que le pays possède les plus importantes réserves au monde dans le Salar d'Uyuni. Donc, l'alternance politique, c'est bien, mais attention quand même, cette opposition bolivienne n'est pas banale. Et puis rien n'indique à ce jour qu'elle représente la majorité de la population.
Et vous dites aussi que le bilan de Morales, c'est pas forcément un mauvais bilan.
On est tenté de mettre Morales dans le même sac que le tandem Chavez-Maduro au Venezuela, parce que dans les deux cas, il s'agit de dirigeants qui se revendiquent socialistes, et dans les deux cas, il y a eu une dérive autoritariste. Sauf qu'il y a effectivement une différence majeure. En Bolivie, Morales a plutôt fait preuve d'une certaine compétence économique. Les résultats sont là. On peut en égrener quelques-uns. PIB multiplié par 4 en 15 ans, pauvreté réduite de plus de moitié, croissance de 4%, accès accru à l'éducation de base, l'analphabétisme a quasiment disparu, le tout grâce à la redistribution de l'argent obtenu avec la nationalisation de l'énergie, le gaz en particulier. Il n'y a que sur l'environnement, en gros, où le bilan est pour le moins mitigé. Et puis Morales a fait autre chose, quelque chose de majeur dans ce pays très particulier qu'est la Bolivie, où la population indienne des Andes, les Quechua, les Aymara, est majoritaire. Morales, qui est lui-même fils de paysans Aymara, a mis fin à la discrimination, voire au racisme dont les Indiens étaient l'objet de la part d'une élite descendante en grande partie des colons espagnols. Il a rendu leur dignité à ces populations, mis fin à l'étanchéité entre les classes sociales, il a fait émerger une nouvelle bourgeoisie, Quechua et plus encore Aymara. La Paz, vous savez, c'est une ville paradoxale. Les pauvres vivent en haut, à 4000 mètres d'altitude, parce qu'il y fait très froid. Les riches y vivent en bas, à 3000 mètres, 1000 mètres plus bas, parce qu'il y fait meilleur. Bien, Morales, il a rendu leur dignité aux Boliviens d'en haut. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le vide politique laissé par son départ ne garantit pas un renouveau démocratique et crée un risque de guerre civile.
On y reviendra demain, justement, et très longuement dans Un jour dans le monde, la Bolivie d'en haut et la Bolivie d'en bas, comme vous dites Jean-Marc. Merci beaucoup. Comme tous les soirs, on reste ensemble pour Le Téléphone Sonne. Juste avant, il y a le journal de Sébastien Pagour. Ne bougez pas.